بسم الله الرحمن الرحيم.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
إن هذه الآية الكريمة هي الأساس الذي ينبغي لكل مسلم أن ينطلق منها لمعرفة الدعوة التي اصطلح بعض العلماء قديما وحديثا على تسميتها بالدعوة السلفية.
الدعوة السلفية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Les éditions دعوة.com vous présentent la série des cours intitulée du frère Samir. Cours numéro 1. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Donc comme je vous l'ai dit, le cours qu'on va faire actuellement et les cours à venir, ce sont des cours qui ont attrait à l'aqida, la croyance, les dogmes, les piliers de la foi, les fondements de la foi. Jusqu'à présent, on était en train de faire des cours sur un livre qui s'appelle Lum'atul I'tiqad de l'imam al-Maqdisi rahimahullah. Après réflexion, j'ai vu qu'il était préférable de revenir un petit peu en arrière, donc j'ai mis en suspens ce livre là parce qu'il y a des nouveaux parmi nous et qu'ils ont besoin d'avoir certaines notions. Donc on va reprendre certaines bases. Ceux qui connaissent ces bases, alhamdoulilah, c'est un rappel, et le rappel fait profiter les croyants. Si ce sont des choses nouvelles, alhamdoulilah, qu'on en soit la cause. On en parle, ma soeur Barakallahu Fik, les soeurs Barakallahu Fikunna, on est en cours Barakallahu Fikunna. Donc, s'il y a quelque chose, voilà, j'ai perdu le fil là. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَى الْمُؤْمِنِ النَّعَمِ. On fait toujours un rappel parce que le rappel fait profiter aux croyants. Il y a des notions de base très très importantes à connaître dans sa religion. Des fois tu discutes avec des gens et ils vont te dire: ouais, vous parlez que de aqida, que de croyance. Il y a des choses plus importantes. Ah oui, ben faites-nous les voir ces choses plus importantes que la aqida. Tu parles de ton Seigneur, il y a des choses qui sont plus importantes que ça. De parler de son Seigneur ou de connaître son Seigneur, il y a des choses qui sont plus importantes. Ah ben faites-les-moi voir, j'accepte, il n'y a pas de problème, faites-les-moi voir. Ou bien ils vont te dire: non, c'est pas la peine de parler de aqida, parce que en parlant de aqida, tu vas réveiller des questions qui dormaient dans les esprits des gens, qui maintenant, ça va former le doute. Là, on est obligé de parler de aqida aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des sectes autour de nous qui parlent de aqida. Si ces sectes, yarhamukallah, si ces sectes ne parlent pas de aqida, on ne parle pas de aqida. Mais tant que ces sectes parlent et prêchent à leur fausse aqida, à leur fausse croyance, on parle. Pour avoir la vraie croyance, la croyance qui a été instaurée par le prophète والسلام, et qui a été enseignée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est obligé de parler de aqida. Donc il y a des termes comme ça qu'on retrouve souvent et qui serait bien de connaître. En plus de ça, La aqida, on a dit, c'est quoi? C'est la science qui étudie les six fondements de la foi. Pas les six points du tablir, attention. Pas les six points du tablir. C'est ainsi fait. Non, ça n'a rien à voir. Les six fondements de la foi qui sont Al-Iman billahi, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa liyam al-akhiri, wa al-qadri khayrihi wa sharrihi, wa al-bi'tidab al-mut. Donc c'est la foi, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, avec ses attributs, bien sûr, avec la foi en ses anges, la foi en ses livres, la foi en ses prophètes, la foi en la prédestination, et la foi au jour du jugement dernier. D'accord ? Ça, ce sont les points de l'Iman. Et on verra avec le temps, qu'on développera et on verra point par point ce qu'est tous ces points importants de la foi. Deuxième des choses, l'aqida, c'est donc ism jami', c'est l'ensemble de cette science-là, on appellera ça aqida. Il y a maintenant aussi le terme qu'on entend souvent, qu'on retrouve souvent, c'est at-tawhid. At-tawhid, on le rencontre souvent ce terme-là aussi. At-tawhid yanqasim. Quand tu veux parler de Allah subhanahu wa ta'ala, tu diras at-tawhid fi haqqillah. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a après ce qu'on appelle at-tawhid al-rasoul. L'unicité concernant le prophète alayhi salatu wa salam. Il y a un autre tawhid, tawhid al-afham. Le tawhid dans la compréhension. Alors toi, quand tu veux parler de tawhid, il faut préciser. Tu parles de tawhid, mais de quoi? En général, ce qui revient souvent quand on dit tawhid, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut préciser. Tawhid al-ittiba', l'unicité dans le suivi. Tawhid, donc concernant Allah subhanahu wa ta'ala, il comprend trois parties. Bien qu'à l'origine, tawhid c'est tawhid. Le tawhid, c'est le fait de rendre une chose unique. Allah subhanahu wa ta'ala, il est un. Et tawhid, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a deux Allah. Il est la moitié de deux. C'est pas la moitié de deux. C'est qu'il est unique dans la divinité, dans la seigneurie, dans ses noms et ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala wahid, ça veut pas dire que c'est la moitié de deux. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est unique, donc c'est lui le créateur. Ça, on va le voir. Là, je résume ce qu'on va voir, inshallah, bi'idnillah. Il est le créateur. Il est le roi dans son royaume. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui donne. C'est lui qui reprend. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'associé. Sans trop rentrer aujourd'hui dans les détails. Il est unique dans l'adoration, dans la divinité. C'est le seul qui a le droit d'être adoré. On n'aura pas le droit d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon on tombe dans le shirk. Et il est unique dans ses noms et ses attributs. Fi asma'ihi wa sifatihi. D'accord ? Il est unique dans ses noms et ses attributs. Ça, c'était pour parler de tawhid fi haqqillah. Tawhid fi haqq al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. L'unicité, donc, dans le prophète alayhi salatu wa sallam, ça veut dire que on reconnaît la prophétie des autres prophètes, mais on ne les suit pas dans leur législation. On suivra la législation du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. C'est ce qu'on appelle tawhid fi haqq al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le troisième tawhid qui vient aussi après, tawhid al-ittiba', dans le suivi maintenant. On devra suivre le prophète alayhi salatu wa salam, mais avec quelle compréhension? Bi-ayyi fahmin natba'u ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, avec quelle compréhension? Avec la compréhension des compagnons, radiyallahu anhum, wa tabi'in, wa tabi' tabi'in, wa kullu man sara ala nahjihim ila yawm ad-din. On devra suivre donc le prophète, les enseignements du prophète alayhi salatu wasalam, avec la compréhension des compagnons et de ceux qui les ont suivis en bienfaisance, c'est-à-dire les tabi'in, les tabi'in et les akhiri. Il y a aussi ce terme qu'on rencontre souvent, c'est le minhaj. On entend souvent dire le minhaj et le minhaj. C'est quoi le minhaj? Le minhaj, c'est la science qui étudie la voie du prophète alayhi salatu wasalam et des compagnons en matière de aqida, d'adoration, de comportement et de relation avec les gens, c'est-à-dire la société où tu vis. Tout ça, c'est le minhaj. Tout ça, c'est le minhaj. Il y a aussi un terme qu'on entend souvent, c'est Ahlus Sunnati wal Jama'a. On entend souvent Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ce terme-là, c'est un terme qui est venu. Pourquoi il est venu? À l'époque du prophète, alayhi salatu wasalam, on ne disait pas Ahlus Sunnati wal Jama'a. On disait Muslimoun. On disait Muslimoun. On ne disait pas Ahlus Sunnati wal Jama'a. Après la mort du prophète, alayhi salatu wasalam, après la mort de Abu Bakr Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman et Ali, là, après Ali, à cette époque-là, ça a commencé donc les divergences, et après sa mort, bon ben, vous connaissez l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, vous voyez ce que la communauté vit. Quand on voit dans l'histoire ce qui s'est passé après la mort de Ali, il y a eu des sectes. Des sectes qui sont nées. Et on les appelle des sectes parce que le prophète, alayhi salatu wasalam, les a appelés des sectes. Et s'il les a appelés des sectes, c'est que c'est péjoratif. Il n'y a pas de sectes qui ne sont pas péjoratifs. Une secte, c'est pas bien. Quand tu rentres dans une secte, c'est pas bien. Le prophète alayhi salatu wasalam l'a mentionné dans un hadith où il a dit que ma communauté va se diviser en 73, 72 sectes et une qui est vouée pour le paradis. Vous allez me dire, mais attends, 73 sectes, une qui est vouée pour le paradis, donc ça veut dire que la celle qui est là, c'est aussi une secte. Non, celle-ci, ce n'est pas une secte. Parce qu'il l'a appelé, il l'a intitulé Al-Jama'a, le groupe. Il l'a appelé comment le prophète alayhi salatu wasalam? Al-Jama'a, le groupe. D'accord? Al-Sunna wal-Jama'a. Al-Sunna wal-Jama'a, pourquoi on dit Al-Sunna wal-Jama'a? C'est que parce que Al-Sunna, il se cramponne à la Sunna. Il se cramponne à quoi? À la Sunna. يتمسكون بالسنة في حياتهم dans leur vie de A à Z. En revenant à A, ils se comprennent à la Sunna. La Sunna, il y a des gens qui vont dire mais la Sunna ce n'est pas obligatoire. La Sunna c'est pas obligatoire. Celui qui veut la mettre en application, la met en application. Celui qui ne veut pas la mettre en application, la met pas en application. Nous on sait une chose, c'est que ce que le prophète alayhi salatu wasalam a dit ou a fait ou nous a donné, il faut se cramponner. بدليل قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. وما نهاكم عنه فانتهوا. Et ce qu'il vous interdit, il faut s'en éloigner. Il ne faut pas simplement s'en éloigner gentiment, il faut s'en éloigner comme la peste. Tu vois la peste, tu t'en éloignes comme ça. واتقوا الله. Et craignez Allah سبحانه وتعالى. وهنا واتقوا لا المفسرون قالوا يعني واتقوا لا ما استطعتم بدليل آية أخرى ما استطعتم الفوق عند الله سبحانه وتعالى الماكسيمم. Donc sunna, le terme sunna renvoie à deux significations. Une signification lorawiyya, linguistique, et une signification shar'iyya, juridique. Linguistique, c'est quoi? C'est la conduite, c'est la méthode, c'est le vécu du prophète, alayhi salatu wasalam. C'est ça, sunnah. C'est sira. Allati sara alayhi nabi sallallahu alayhi wasalam. Juridiquement, parlant, sharia, c'est quoi? C'est tous les dires du prophète, tous les faits du prophète et tout ce qu'il a approuvé. Il a vu Bilal, radiallahu ta'ala, après chaque ablution, faire deux rak'at, il a instauré ça comme sunnah. C'est devenu une sunna. Mais à l'origine, ce n'est pas une sunna du prophète, alayhi salatu wasalam, c'est sunna de Bilal, radiallahu anhu. Mais c'est une sunna. Il a approuvé. D'accord? Donc ça c'est Ahl Sunnah. Pourquoi? Parce que là où ils voient une chose que le prophète alayhi salatu wasalam a fait ou a dit ou a prouvé, ils s'y cramponnent. Al-Jama'a. Pourquoi on dit Al-Jama'a? Al-Jama'a, c'est le groupe. Et un groupe, il se forme de plusieurs personnes. Il se forme de plusieurs personnes. Ahl Sunnati wal Jama'a. Ils se sont réunis pour mettre en application la Sunna. C'est pour ça qu'on dit Ahl Sunnati wal Jama'a. Sinon, on aurait dit Ahl Sunnati wal Farq. Chacun tout seul dans son coin. Non. Nata'awun ala al-birri wa taqwa. On s'entraide mutuellement tous, main dans la main comme on est. Ça, ce sont des petits termes qu'on rencontre souvent. On rencontre souvent, c'est pour ça que c'est bien d'en parler, pour d'abord que ça soit clair. C'est-à-dire que quand après on va commencer à rentrer plus dans les détails, quand on dira que Ahl Sunnati wal Jama'a, tiens, Ahl Sunnati wal Jama'a, on sait de qui on parle. Deuxième des choses, c'est que Ahl Sunnati wal Jama'a, ils sont venus à une époque où justement il y avait le trouble dans la communauté, et il y avait justement, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il le mentionne très bien dans ses livres, il dit Ahl al-Bid'a wal Furqa, les gens de l'innovation et de la divergence. Alors pour se différencier de ces gens-là, il faut avoir aujourd'hui une étiquette. C'est quoi cette étiquette? C'est Ahl al-Sunnati wal Jama'a. Comme il fut une époque avant Ahl al-Sunnati wal Jama'a, il y avait sunni ou shi'i, il y avait ceux, donc les sunnites et les chiites. Mais après, il y a eu encore cette division dans les chiites, on n'en parle plus, d'accord. T'as les musulmans, t'as deux groupes qui se sont créés, les chiites et les sunnites. Les chiites, on en reparlera une autre fois, les sunnites, ils se sont divisés. Parmi eux, il y a eu le Khawarij, parmi eux, il y a eu le Mu'tazila, parmi eux, il y a eu le Jahmiya, parmi eux, il y a eu le Murji'a, parmi eux, il y a eu le Qadariya, parmi eux, il y a eu le Jibriya, il y a Akhiri, il y a Yomina Hada. Tout ça, ce sont des groupes qui se sont formés. Et pour se différencier de tous ces groupes-là, les imams de cette époque-là, ils ont donc donné ce nom-là qui est Ahl Sunnah wal Jama'a. Ahl Sunnah wal Jama'a, on rencontre dans les livres de Aqidah, dans les livres de Hadith, qu'ils portent d'autres noms. Il y a aussi, vous allez rencontrer Ahlul Hadith. Ahlul Hadith, c'est Ahl Sunnati wal Jama'a. Vous pouvez rencontrer aussi Al-Jama'a tout court. Vous pouvez rencontrer Ahlul Athar. Vous pouvez rencontrer Al-Firqatul Najiya, le groupe sauvé. Vous pouvez rencontrer Al-Ta'ifatul Mansoura. Vous pouvez rencontrer aussi As-Salafu As-Salih, les pieux prédécesseurs. Tout ça, ce sont des termes qu'on rencontre qui veulent dire la même chose. Et tous ces termes-là veulent dire Ahl Sunnati wal Jama'a. D'accord? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent Anna, je suis de tel groupe, tel groupe, tel groupe, tel groupe. Est-ce qu'ils suivent Ahl Sunnati wal Jama'a? Si oui, ils font partie de Ahl Sunnati wal Jama'a. S'ils ne font pas partie de Ahl Sunnati wal Jama'a par leur croyance, par leur comportement, par leur adoration, par leur méthodologie de faire les choses, d'enseigner la religion, on ne dira pas que hum min Ahl Sunnati wal Jama'a. Mais on ne les fait pas sortir de l'islam, attention. On ne dit pas que ce ne sont pas des musulmans. Ce sont des musulmans, mais ils ne font pas partie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Pourquoi? Parce qu'ils ne se cramponnent pas à la Sunna. Ils ne se regroupent pas pour justement se cramponner à la Sunna. Donc, Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est pas simplement des bagatelles. Des fois, il dit « Ahl Sunnati wal Jama'a, Ahl Sunnati, Ahl Muslimun gar kif-kif, là, j'ai Ahl Sunnati wal Jama'a, kada, kada. » Là, Ahl Sunnati wal Jama'a, ce sont des gens qui ont instauré des règles bien précises pour suivre le prophète, alayhi salatu wa salam. Tu rencontreras leur chemin, donc dans, parce qu'ils ont fait le bayan, ils ont dévoilé, ils ont tout fait voir, fitouhidillah. Donc nous maintenant, quand on va parler, on va te dire kama qala ahl sunnati wal jama'a fi haqqi tawhidillah. On le dit souvent, des fois tu les rencontres dans les cassettes, des fois tu les rencontres dans les prêches du Jumu'ah, des fois tu les rencontres dans le daf. Donc ça veut dire quoi dans ta tête? Maintenant tu sais que ahl sunnati wal jama'a, ce sont les gens qui se cramponnent à la sunna. Donc eux, comment ils voient haqqullah fi tawhid? Ils ont bayen avec des versets du Coran, des hadiths et de la compréhension des compagnons et de ceux qu'ils ont suivis. Tu rencontreras aussi la tariqat Ahl Sunnati wal Jama'a, fi ibadatillah, dans l'adoration. On n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala aveuglément. On n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala parce que notre tête nous a dit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, comme on le veut. Non, il y a une méthode pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, tu rencontreras dans leurs enseignements. Tu rencontreras aussi tariqatuhum fil ibada. Il faut comprendre une chose fil ibada. Annahum ya'budun Allah lillahi wa billahi wa fillahi. Ça veut dire quoi tout ça? Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala pour Allah. Ça m'a dit ça, al-ikhlas. Mukhlisina lahu din. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça, ça fait ce qu'on est en train de dire, on est en train de s'avancer un petit peu petit à petit vers le tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. C'est que tout ce que tu vas entreprendre, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Tu ne le feras pas pour un génie, tu ne le feras pas pour un ange, tu ne le feras pas pour un homme pieux, tu ne le feras pas pour un arbre, tu ne le feras pas pour une pierre, tu ne le feras pas pour le soleil, tu le feras pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu vas entreprendre, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'budun Allah billahi. Ça veut dire quoi billahi? Ay musta'inina bihi. En demandant de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. On adore Allah subhanahu wa ta'ala en demandant de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne te donne pas de son aide, tu ne pourras pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et on les voit les gens des fois quand ils sont mal dans leur peau. Il y a des fois des gens, ils sont mal dans leur peau, ils n'arrivent plus à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils lisent plus de Qur'an, ils font plus de prières surérogatoires, ils font plus de dhikr, ils se rencontrent plus, ils viennent plus, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une phase où ils sont mal dans leur peau. وَيَعْبُدُونَ اللَّهَ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ أَيْ فِي دِينِ اللَّهِ الَّذِي شَرَعَهُ عَلَى أَلْسِنَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمُ أَيْ فِي اللَّهِ. Ils vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala et puiser leur adoration dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à son prophète alayhi salatu wa salam. Ils ne vont pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans les livres qu'on rencontre dans la, par exemple dans, chez les gréco-romains ou bien chez les indiens bin al-hunud al-hind bien sûr, ou toutes leurs croyances ou leurs philosophies. Non, on adore Allah subhanahu wa ta'ala fima najid fil qur'an wa sunnah. On trouve dans le Coran, on trouve dans la Sunna, on trouve dans la compréhension des pieux prédécesseurs, elle, na'am, tayyib. Sinon, c'est à rejeter. Donc, ya'budun Allah, lillahi, fillahi, wa billahi. On rencontre aussi dans les enseignements, mais tout ça, tous ces points-là que je suis en train de dire, ça va être développé, Inch'Allah. Ça va être développé au fur et à mesure qu'on avancera dans les cours, Inch'Allah. Troisième point qu'on rencontre aussi, c'est tariqatu ahli sunnati wal jama'a. On verra aussi comment on doit comprendre l'amour. On n'adore pas le prophète alayhi salatu wasalam. Attention, on n'adore pas le prophète alayhi salatu wasalam. On aime le prophète alayhi salatu wasalam. Celui qui doit être adoré, qu'est-ce qu'on a dit? C'était Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, on aime le prophète alayhi salatu wasalam. On le suit dans sa sunnah. On verra aussi avec le temps, inshallah, tariqa. Donc, fil jama'a, fil sahaba. Après, l'amour qu'on doit avoir avec les compagnons, on ne doit pas les élever. On ne doit pas les élever. Pourquoi? Parce que, yaqul au Sheikh al-Albani rahimahullah, une règle très très importante qu'il répétait à chaque fois, il disait que, minhaj al-sahaba, ma'soum, le chemin que les compagnons ont emprunté, le chemin des compagnons, il est ma'soum, il est protégé, il est préservé. Préservé de quoi? De l'erreur. Wa hada dalilu qawlu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam qala la tajtami'u ummati ala dalala. Que ma communauté, elle ne peut pas se rencontrer dans le sens où elle ne peut pas être regroupée sur l'erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres communautés auparavant, elles pouvaient se rencontrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs imams, leurs savants pouvaient faire des erreurs. mais pas le manhaj des compagnons, pas le chemin des compagnons. Mais il faut comprendre une chose, donc on a dit manhaj al-sahaba ma'soumun, lakin al-sahabata ki ashkhasin ghayru ma'soumin. Mais les sahaba en tant que personnes individuelles, ils ne sont pas préservés. Celui qui est préservé, c'est celui qui a que Allah a préservé. Wal ma'soum wal rasoul wal rasoul hum ma'soumun. Le prophète, il était préservé de toute erreur en religion. Attention, en religion. En religion, le prophète, alayhi salatu wasalam, il était préservé. Mais dans les choses de la vie de tous les jours, la vie courante et tout ça, le prophète, alayhi salatu wasalam, il a fait des erreurs. Il a fait des erreurs dans les choses de la vie de tous les jours. Jusqu'à tel point qu'il disait « Antum a'lamu bi umuri dunyakum »« Antum a'lamu bi umuri dunyakum » Mais dans les choses de religion, le prophète, alayhi salatu wasalam, il était préservé. On rencontrera aussi après fil aulia comment Ahlus Sunnah wal Jama'a comprennent c'est quoi le wali, c'est qui l'ami d'Allah, c'est qui ce qu'on pourra traduire, ce qu'on rencontre des fois dans les livres, un saint. Un saint ici, nous on va le comprendre dans le sens où c'était un homme qui était un homme ou une femme bien sûr qui était rapproché, un rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, on verra c'est quoi tout ça inchallah. Il y a aussi après fil a'imma, les imams, et ça c'est pour refuter aqwal al-shi'a. On verra aussi donc le respect que Ahl al-Sunnah wal Jama'a donne aux savants. On verra aussi fi wilayat al-umur ay al-hukam, comment Ahl al-Sunnah wal Jama'a doit se comporter vis-à-vis du gouvernant. Comment il doit se comporter, il a un comportement. Ça on le verra inchallah. On verra aussi avec le temps islah al-mujtama', Ahl al-Sunnah wal Jama'a fi islah al-mujtama', comment Ahl al-Sunnah wal Jama'a faisaient dans leur société où ils vivaient pour que la société elle soit toujours bonne. On le verra inchallah. Ça donc c'était des notions pour se rapprocher de la compréhension du dars. Il y a un hadith aussi très important qu'il faut retenir ici, c'est que le prophète alayhi salatu wasalam a dit inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah 'ala ra's kulli 100 sana man yujaddidu laha dinaha. Al-hadith as-sahih rawahu Abu Dawud. Le hadith il est sahih, il est dans les recueils de Abu Dawud. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce hadith là. Sans sous-estimer les gens, bien sûr, on ne sous-estime pas les gens. Il y a des gens qui vont dire oui, alors ça veut dire que chacun de nous peut être celui qui va refaire revivre la religion. Ça veut dire quoi refaire revivre la religion? La religion elle est vivante, elle n'est pas morte. Ici c'est pour refaire revivre les sunnas qui ont été instaurés par le prophète alayhi salatu wasalam et qui ont été oubliés ou délaissés. Oubliés volontairement, attention hein. C'est volontaire hein. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد أي من يحيي لها دينها أي السنن. Les choses que tu rencontres dans la religion qui ont été oubliées. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la religion qui ont été oubliées. On a parlé déjà, on l'a dit, mais bon, pour les nouveaux, on peut le redire. On a dit que par exemple, une sunna que peut-être beaucoup n'ont jamais entendue, après l'Asr, 45 minutes avant la prière, après la prière de l'Asr, il est sunna de faire raka'atayn. De faire quoi? Raka'atayn. Après l'Asr, on a fait l'Asr. L'imam il a dit assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Certaines personnes ont voulu se lever, c'est pas une obligation, mais c'est une sunna. Certaines personnes ont voulu se lever et faire raka'atayn lillahi subhanahu wa ta'ala. C'est sunna. Mais il y a un temps à ne pas dépasser. C'est quoi? C'est à peu près 45 minutes. Après 45 minutes, là non, c'est عند استرار الشمس, quand le soleil commence à jaunir pour rentrer dans l'heure du maghrib, là c'est fini. Avant ce temps-là, tu as 45 minutes pour pouvoir les faire. C'est sunna. Mais je suis sûr actuellement, il y en a, ils sont en train de se dire mais attends, d'où il a sorti ça? C'est normal, ce sont des choses qu'on a oubliées. Ce sont des choses que les imams n'enseignent plus. Les imams ils n'enseignent plus ces choses-là. Les imams, certains, pas tous, alhamdulillah, al-khair mazal mawjoud fil umma. Ils vont monter sur le minbar ou ils vont faire des durus, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te cartonner les hukam. Al-hukam kuffar. Lazem nukhruj min ta'at al-hukam. Hada kafir, hada kafir, hada kafir. Tayyib. suis d'accord avec toi, tous sont des kuffars. Ils sont les musulmans. Aïna al-muslimoun. Je suis d'accord avec toi, ils sont les musulmans alors. Si tout le monde est kafir, tout le monde est mécréant, ils sont les musulmans. Est-ce que les gens, c'est ça qu'ils ont besoin? Pourquoi tu ne leur donnes pas ce qui va les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi tu ne leur donnes pas ce qui va leur permettre de s'éloigner de l'enfer? Pourquoi tu me chauffes? Tu me chauffes comme un ballon de boudruche. T'as vu le ballon là? Tu le gonfles. Alors où il éclate, il fait plus de bruit qu'autre chose. Où il se dégonfle, il vient tout mou. C'est tout, c'est ça le ballon de boudruche. Subhanallah. Donne-moi des choses qui vont me rapprocher d'Allah subhanallah. J'ai pas besoin que tu me racontes autre chose. Donne-moi des choses qui me font connaître mon Seigneur. Donne-moi des choses qui me font connaître le prophète alayhi salatu wasalam, que j'ai de l'amour pour le prophète alayhi salatu wasalam. Et ne minimise pas la chose, ne dis pas que c'est pas important. Tout est important en religion. À partir du moment où le prophète alayhi salatu wasalam l'a instauré, c'est que c'est important. Peut-être que toi aujourd'hui tu ne comprends pas, tu ne vois pas l'importance de la chose. Mais avec le temps, tu vas découvrir que, ah ouais, effectivement, c'est vrai, c'est important. Ah, alhamdoulilah que Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a permis d'avoir compris. Et après, avec le temps, tu diras alhamdoulilah qu'Allah m'a permis de mettre en application ce que j'ai compris. Et ça revient à dire, où le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit déjà bien avant nous, alhamdoulilah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Alhamdoulilah, tu remercieras Allah de t'avoir guidé dans une chose que si Allah lui-même ne t'avait pas guidé, tu ne serais pas guidé. Imagine-toi si Allah subhanahu wa ta'ala t'avait créé comme Jean-Pierre ou la Michel ou la Jacqueline ou la je sais pas quoi. تأكل الحلوف أكرمكم الله تشرب الشراب ما عندك لا دين لا ملة با دو ريليجيون ريان دو تو ميشيل مسيو تو الموند الله سبحانه وتعالى تا دوني كوا لا غيدي هداك للاسلام اي تا غيدي الاسلام لا دوزيام دي شوز سي با لو تو سي كيل تا غيدي على السنه الحمد لله الذي هداك للسنه سي امبورطون. Il y a beaucoup de nos frères, ils sont musulmans, pratiquants, mais ils ne connaissent pas la sunna. S'ils savaient la valeur de la sunna, on ne vivrait pas ce qu'on vit aujourd'hui. Subhanallah. C'est très important de mettre l'application de la sunna. Mais il ne faut pas être entêté. Ça veut dire quoi, il ne faut pas être entêté? Des fois, il y a des gens, ils vont te dire, moi écoute, je suis allé chercher du boulot, ils m'ont refusé parce que j'étais en kramis. Alors, moi, si je travaille en kramis ou je ne travaille pas. Et après, tu le retrouves, il fait quoi? Il fait la mendicité au RMI, il fait la mendicité aux ACDIC, il fait la mendicité au chômage. Pourquoi tu t'entêtes à vouloir mettre le khamis pour une chose qui n'était pas obligatoire? Si tu ne veux pas travailler avec ton khamis, ben enlève ton khamis, mon frère. Si tu veux, tu peux travailler avec ton khamis, alhamdoulilah, c'est ce qui est demandé. Mais si tu ne peux pas, va travailler avec ton pantalon. Il a le problème. Ah non, c'est le khamis ou la rien. Ils ont rendu une chose qui n'est pas obligatoire, bien qu'elle est obligatoire aussi. Attention, il faut bien qu'on comprenne les choses. Et ils se sont entêtés. Alors, ils ont préféré faire la mendicité que d'aller travailler. Yadul a'la afdal min yadus sufla. La main qui donne ou qui est élevée est préférable à celle qui est tendue comme ça ou qui demande. Subhanallah. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas faire le RMI, tu vas faire le chômage? Mais bon, ça c'est pour le khamis. Pas pour le hijab. Le hijab, c'est différent. La femme, déjà, on ne lui demande pas de travailler. Mais attends, parce que je sais que les sœurs vont dire, oh là là, il est en train de fermer les portes aux femmes. Non, je ne ferme pas les portes aux femmes. La femme, elle peut travailler avec des conditions. Si les conditions sont remplies, elle travaille. S'ils ne sont pas remplis, elle ne travaille pas. C'est tout, c'est simple à comprendre. Mais on ne va pas ouvrir des portes et dire, c'est pas grave, on a besoin des femmes dans la société. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je préfère que ma femme, elle aille voir une femme gynécologue, que ce soit un homme qui la voit. Je préfère que ma femme, elle aille voir une femme dentiste, que ce soit un homme qui lui touche sa bouche. On le sait, ça. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des conditions. C'est pas tu viens, tu enlèves ton hijab, tu te fais une belle coupe, et tu te maquilles, tu te parfumes, et puis tu vas travailler, tu disant, oui, mais parce que là. Ou bien tu vas travailler avec ton hijab, mais tu es en plein milieu d'hommes. Et puis après, tu es secrétaire dans un bureau et ton patron il vient, il se met à côté de toi. Alors vous avez compris, mademoiselle Malika, c'est ça qu'il faut faire, il se rapproche de toi, ça s'appelle sitcom ou là il te touche le dos et tout. Ah, Rubillah, Shada. Ça n'accepte pas ces choses-là. Si tu travailles entre femmes, si c'est du travail entre femmes, oui. Mais si c'est pas du travail entre femmes, c'est pas la peine. On n'ouvre pas ces portes-là. Bien sûr. si par exemple la femme elle se marie et qu'avec le temps le mari lui arrive un accident et qu'il devient paralysé et il ne peut plus travailler et il a laissé 6 gosses ou 7 gosses et que la femme elle est obligée d'aller bosser, normalement si on était dans un état islamique on n'aurait pas besoin de la faire travailler cette femme là il y a la caisse de l'État qui elle verse une mensualité par mois à cette famille là comme ça, ça préserve les femmes d'aller faire n'importe quoi. Mais alhamdoulilah, nous on n'a pas le fikr des talibans, on n'est pas des talibans, nous des talibans qui ont fermé les portes à tout le monde. Et comme son nom l'indique, les talibans, c'est quoi talibans? Ce sont des étudiants. Il y a des choses de bien qu'ils ont fait, mais il y a beaucoup de choses de mal. Pourquoi tu vas interdire aux filles d'étudier? Pourquoi tu vas interdire? Mais bon, il faut aussi ne pas tomber dans l'excès à croire tout ce qu'on nous dit dans les médias. Ça, il ne faut pas aussi tomber dans cet excès-là. Il y a des choses de bien qu'ils ont fait, mais aussi beaucoup de choses de mal qu'ils ont fait. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Ce sont des tulab al-ilm. Ils ne se sont pas renseignés. Ils n'ont pas demandé l'avis aux grands ulama. Ils ne sont pas retournés chez les savants. Pourquoi tu ne retournes pas chez les savants? Demande aux savants, demande aux ulama. Et là, tu t'apercevras qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut ne pas faire. Pourquoi tu vas interdire ta fille d'étudier? On a besoin dans la société de femmes gynécologues, de femmes dentistes, de femmes médecins. On a besoin. On a besoin de femmes qui vont enseigner à nos enfants, surtout quand c'est des enfants de bas âge. Ainsi dit, on va leur apprendre à nos enfants dès le plus jeune âge à ne pas avoir de la mixité. On va leur apprendre à ce plus bas âge. Déjà dans les maternelles, disons 2, 3, 4 ans, on sépare les petits garçons, les petites filles. C'est bien. Mais qui c'est qui va enseigner aux petites filles? C'est un boulahir? Là alors, subhanallah, pourquoi ce ne serait pas une sœur qui vient enseigner aux petites filles? Ou bien ils vont te dire, non, c'est pas grave, comme on voit des fois. On voit des fois des conférences ou des choses qui se font, et puis bon, ben, ils partagent même pas. Alors tu as les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et puis tu as le conférencier qui donne son dars, et puis tu as les sœurs là, tu as les hommes là-bas, et puis le conférencier, on a plus tendance à le voir regarder du côté des femmes. C'est normal, il n'y a pas de hijab qui sépare entre les hommes et les hommes. Et puis après, il n'y a pas que ça. Des fois, on se demande si les sœurs, comme les frères, viennent pour le côté conférencier ou bien pour faire des demandes de mariage. C'est une grande agence matrimoniale. Ben oui, ils ne viennent plus pour le côté de place, mais ils viennent pour se rencontrer, se voir, et puis hop, et on les a vus. Il y en a plein, et ça je le dis par expérience que j'ai vécu. J'ai vu des frères aller accoster des sœurs. Hada min as-sunnah. Ça ne fait pas partie de la sunna. Oui, mais moi je cherche à me marier. Alors ils vont au Bourget. Au Bourget, là-bas, ils vont se marier. Eh, Jada, ce n'est pas la sunna. Tu veux te marier, c'est pas comme ça. Tu veux te marier, tu parles de bouche à oreille. Et tu vas demander directement la fille, la prétendante chez le père. Tu viens, salam alaikum, mon frère. Voilà, j'ai appris que vous avez une fille à marier, en âge de mariage, et que vous êtes. Voilà, Uzakir Allah et Ahad. Père d'une bonne famille, et alhamdoulilah, j'ai entendu que du bien, et ça m'encourage à venir demander la main de votre fille. Le père, il n'a pas le droit de se refuser, sauf si la fille n'est pas prête. Si tu es un musulman pratiquant, je ne vois pas pourquoi il te refuse. Normalement, il te ramène chez lui, en sa présence, la fille, elle vient, tu la vois, tu discutes avec elle, si ça passe, alhamdoulilah, si c'est pas ça, kul wahid fi hadd, chacun, il a son maktoub. Chacun a son maktoub. C'est pas une marchandise que tu présentes, c'est ta fille. Si ça s'est fait, alhamdulillah. Si ça s'est pas fait, alhamdulillah. Son maktoub viendra. Et toi, ton maktoub viendra. C'est ça la sunna. Et on le voit des fois, les mariages qui se font hors sunna. Au bout de 3 mois, 6 mois, ils divorcent. Au bout de 3 mois, 6 mois, ils divorcent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis en application la sunna. Et ça, c'est valable pour n'importe quoi. Tu veux faire un commerce, et puis tu te renseignes même pas, tu sais même pas si ton commerce il est basé sur des bons piliers qui sont Al-Qur'an et Was-Sunna. Tu viens, tu fais n'importe quoi, au bout de 6 mois tu fais faillite. Après quand tu recherches, tu te dis mais pourquoi et tout, tu t'es aperçu que ah, parce que c'est vrai, je l'avais pas fondé sur des bonnes bases. Tu achètes une maison avec Rida, et puis un jour il y a une explosion de gaz, ta maison elle saute. Oh là là, qaddar Allah ma chata'al. Oui, mais c'est quoi ce tabab? C'est quoi la cause? C'est parce que tu l'avais acheté avec de l'argent haram. Nous on se rend pas compte ça. T'achètes une voiture, et puis tu l'as acheté, c'était une voiture volée, mais comme le gars t'a fait un petit prix dessus, la voiture elle coûte 200 000 francs, il te la fait à 50 000 parce que c'est un voleur, il s'en fout, lui 50 000 c'est beaucoup pour lui. Il te la vend à 50 000, il traite les papiers, tout ça, le business, comment ça se passe. Et hop, il part, il fait un accident, handicapé à vie, ou il a un bras qui part, ou il a une main qui part. Il va dire Qaddar Allah ma shafa'al. Oui, Qaddar Allah ma shafa'al, mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa science illimitée et ta science infinie, il savait que tu allais prendre cette voiture qui est volée et toi tu as encouragé le voleur. C'est pour ça que le receleur ici en France, si on regarde bien, il est réprimandé plus que le voleur lui-même. Ah oui, celui qui encourage le vol, il est encore plus que le voleur par lui-même. Tu vois? Après, quand tu médites, tu te dis, ah oui, c'est normal qu'il m'est arrivé tout ça. Parce que c'est moi, j'ai pas fait des bons fondements. J'ai pas fait des bons fondements. Et toute sa vie, il est triste, mesquine. Et pour dire mesquine, c'est un vrai mesquine. Pourquoi tu t'es mis dans cette galère? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la sunna ne doit pas faire peur les gens. La sunna, elle ne doit pas faire peur les gens. Quand on dit qu'il faut revenir à la sunna, c'est parce qu'on a tellement été endormi, et on dort encore, ça fait que quoi? Donc quand on dit aux gens de revenir à la sunna, c'est comme si quelque chose d'énorme leur tombait sur la tête. C'est normal, tu n'as pas été habitué. Mais nous, on te dit pas de te cramponner à la sunna du jour au lendemain. Laisse faire les choses. Viens, avance petit à petit. Emprunte le chemin. On te dit pas de du jour au lendemain, ça y est, tu viens et tout, parce que tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Le prophète, alayhi salatu wasalam, quand il a commencé sa da'wah, il a commencé avec quoi? Avec le tawhid. Avec quoi? Avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne dis pas à une femme qui n'est pas le hijab, mets le hijab. Je ne dis pas à un frère qui n'est, par exemple, une chose obligatoire. Le port de la barbe, par exemple. On ne dit pas au frère qui porte la barbe, tu ne portes pas la barbe, mets ta barbe. Non, on ne dira jamais ça. Ça, ça ne fait pas partie du comportement des pieux prédécesseurs. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, c'est pas comme ça qu'il s'est comporté. Tu lui feras d'abord aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'il va aimer Allah subhanahu wa ta'ala, il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième étape, maintenant que tu vas adorer Allah, fais-lui adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement. Une fois que maintenant il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement, c'est que parce qu'il aura suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'adoration. Fais-le aimer après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et fais-lui cette envie de découvrir le prophète, alayhi salatu wasalam. Et tu verras qu'en aimant le prophète, alayhi salatu wasalam, il va vouloir s'imiter au prophète, alayhi salatu wasalam. On les voit, nous, les acteurs et les chanteurs. Hadaï s'imite, des fois, tu en vois dans la rue, on dit, oh là là, génialité, c'est même pas lui. Des fois, tu rencontres des gens, oh là, mon frère, j'ai vu, surtout ça, tu chez les Aérois, les Congolais. Tu les vois, on dirait des Michael Jackson, tous le blouson en cuir rouge et noir, les drôles de coupe et tout. Pourquoi? Parce qu'ils aiment. Et alors ils veulent s'imiter à ceux qu'ils aiment. Et dans les années twist, tu les voyais, c'était des Elvis avec leurs bananes là. Et subhanallah, avec leurs blousons et tout. Et va en Amérique, c'est encore pire. En Amérique, ils sont fous. Ils sont fous des idoles comme ça. Et c'est des idoles. C'est des idoles. Ils les appellent même nos idoles. Tu les vois dans une fois, ils ont fait voir une émission comme ça par curiosité, j'ai voulu regarder. Tu vois des gens, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Il y en a, ils sont capables de mourir pour leur idole. Est-ce que nous, on est capable de mourir pour la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam? Chacun se pose la question. Moi, je ne juge personne. Ah, la sunna wa'ra. La sunna, elle est difficile quand il s'agit de mort et tout ça. Et bien sûr, vous allez me dire, mais attends, Seigneur, tu es en train de nous enseigner ici l'enseignement des pieux prédécesseurs. En bas, dans le cas où tu dois mourir pour la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te dit pas de mourir pour la sunna. Donc voilà, il y a une facilité quelque part. Eh bien oui, il ne te dit pas de mourir pour la sunna. Ça veut dire quoi mourir? C'est un terme qui fait qu'il faut se comprendre quoi qu'il arrive. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas ton halak, il ne veut pas ton mal. Il ne veut pas ton mal. Si par exemple tu es obligé pour x ou x raison de mettre en suspens la sunna, tu la mettras en suspens. Mais ça ne veut pas dire que tu vas l'oublier là, que tu l'oublies définitivement. Non. أهل السنة والجماعة هم الذين هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه. Pourquoi أهل السنة والجماعة الله سبحانه وتعالى les a guidés ces gens-là? Parce qu'à cette époque, comme on vous l'a décrit, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu des divergences d'opinion et de compréhension dans la religion, en commençant par la aqida et en terminant par la vie dans la société. Il y a des gens, si tu ne vas pas avec eux dans leurs idées, ils te rendent mécréant. Ils disent de toi que tu es un kafir, tu es un mécréant. Si tu ne suis pas dans leurs idées, tu es un kafir, tu es un mécréant. Vous avez peut-être tous entendu parler de la secte des Habash. La secte des Habash, c'est même pas la peine de venir parler avec eux. Quand ils te voient, surtout s'ils te voient comme ça avec leur khamis, c'est derrière tout ça et tout, ils te disent bonjour. J'ai même pas besoin de ton bonjour. Allez, j'ai même pas besoin de ton bonjour. Je parle même pas avec toi. Il faut pas leur donner l'occasion à ces gens de parler avec toi. S'ils viennent, ils te disent bonjour. Pourquoi ils te considèrent pas comme un musulman? Ils te considèrent pas comme un musulman. Pourquoi tu me dis bonjour? J'ai pas besoin de te. Allez. Alors ils vont te sortir des choses dans la croyance. On y reviendra de toute manière. Dans la croyance, des choses qui sont. On sait même pas d'où ils sortent ça. On ne sait même pas d'où ils sortent ça. Ces gens-là, pour eux, il n'y a pas de musulmans. Pour eux, par exemple, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, ce n'est pas un musulman. Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, ce n'est pas un musulman. Cheikh ibn Uba, Cheikh al-Albani, Cheikh ibn Taymiyyah, Cheikh Abou Bakr al-Jazayri, et je peux t'en citer comme ça beaucoup. Pour eux, ce ne sont pas des musulmans. C'est grave, ma sœur Elchou, c'est grave. Et malheureusement, il y a beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui sont dans cette secte-là, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans une secte. Et il y en a qui croient qu'ils sont rentrés dans l'islam, mais ils ne sont pas encore rentrés dans l'islam. Parce que pour rentrer dans l'islam, il y a des conditions. C'est pas tu viens et puis tu dis, regarde, voilà, pour rentrer dans l'islam, il y a la ilaha illallah, Muhammad al-Rasulallah, et il y a mon shikh là. Tu vois la photo du shikh là? Il y a ça aussi. Si tu ne dis pas aussi mon shikh, tu n'es pas rentré dans l'islam. Allez-y voir dans leur temple. Allez-y voir dans leur temple. Vous allez trouver des photos de leur shikh. Nous, on rigole, ça nous fait rire parce que ça nous amuse. Mais quand tu sais que la Oumma est malade, quand tu sais que ton frère ou ta soeur en face, elle a cette maladie dans le cœur, et que tu sais que c'est triste pour elle parce qu'elle risque de rentrer en enfer, c'est triste. Quand on dit rentrer en enfer, c'est pas moi qui juge, c'est Allah qui va juger. Moi, j'espère pour elle et pour lui qu'il ne rentrera pas en enfer, bien que moi aussi, je ne suis pas parmi les gens du paradis. Et vous tous aussi, on n'est pas parmi les gens du paradis, on ne sait pas. Allah alam, Inch'Allah, on demande à Allah cette chose-là. Mais une chose très importante à savoir, c'est qu'il y a un chemin. Il y a un chemin à suivre. Et ce chemin-là, il ne faut pas avoir de doute dessus. Il ne faut pas avoir de doute sur le chemin que tu suis, le chemin que tu empruntes. Il ne faut pas avoir de doute dessus. Si tu as des doutes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta croyance, dans tes bases, dans ton fondement de la aqida, de la religion. C'est qu'il y a des doutes. Subhanallah. Ces gens-là, les Habash, pourquoi j'en parle? Parce qu'ils sont, ils commencent à pousser comme des champignons un peu partout, pour ne pas dire comme des cafards. Ces gens-là, ils sont dangereux. Ils sont dangereux, ils sont dangereux. Ils nous ont sorti une philosophie, je ne sais même pas d'où elle est venue cette philosophie, et ils veulent l'instaurer aux musulmans européens. Là. Faites attention. Coupez toute relation avec ces gens-là. Si tu vois qu'il y a un bien et qu'il peut revenir à la raison, à la vérité, Allahumma barik, sinon, salam alaykoum. Wa idha khatabakum al-jahiloun. C'est tout, j'ai pas de temps à perdre. Troisième point, ne perdez pas votre temps à parler avec n'importe qui de n'importe quoi. N'ayez pas des conversations stériles, des conversations futiles. Une conversation qui ne te fait pas rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète alayhi salatu wasalam et du paradis, ou bien une conversation qui ne te fait pas éloigner de l'enfer. Et je précise toujours paradis, enfer, paradis, enfer, parce que la mort elle guette tout le monde. Wal mautu aqrabu ghaib. Elle monte. La mort, elle est proche de tout le monde. Il ne faut pas croire que la mort est loin de nous. Elle est proche. Et on ne sait pas de qui de nous sera le prochain sur la liste de Malak al-Mout. Donc, il faut se préparer. Parce qu'après la vie sur Terre, ce n'est pas je vais me réincarner dans un chameau ou là dans un je ne sais pas quoi. Là, après la mort, c'est le paradis ou l'enfer. Ou ce n'est pas je deviens tourabe et on n'en parle plus. Non, enfer, paradis, paradis, enfer. Et c'est pour ça que nous, notre demeure éternelle, c'est le paradis, Inch'Allah. Et Inch'Allah, c'est un espoir qu'on veut convoitiser. Natma, naqulu Inch'Allah, la nashuku fi hada. On ne dit pas Inch'Allah, oh, peut-être que j'ai dit. Non, Inch'Allah, j'espère avoir le paradis et je fais tout pour l'avoir. C'est pour ça que donc, au fur et à mesure qu'on avancera donc, dans nos cours, on parlera beaucoup de la croyance, en commençant bien sûr par la croyance, de Ahl Sunnati wal Jama'a. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien été guidés. Wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Et Allah guide qui il veut dans le chemin droit. Guide qui il veut. Qui veut être guidé, Allah le guide. Si maintenant Allah subhanahu wa ta'ala te donne la guidée, tu ne veux pas la prendre la guidée, ah ben, si tu veux rester dans l'égarement, reste-y, mais reste-y seul. N'appelle pas les gens à l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala te donne la guidée, tu veux la prendre, alhamdoulilah, c'est bien pour toi. Tu ne veux pas la prendre, tu es libre de ne pas la prendre. Mais si tu es dans l'égarement, tu ne viendras pas te plaindre.
وكلنا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق.
Et on sait tous que le prophète عليه الصلاة والسلام a été envoyé avec la religion, donc de la guidée.
الهدى الذي ليس فيه ضلال ولا اعوجاج.
Et quand on dit الهدى, c'est la guidée. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas donc d'ambiguïté dans le chemin, dans le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام.
وبقي الناس في عهده صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج السليم القويم وكذلك عامة زمن خلفائه الراشدين.
Et à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, ils étaient donc dans la religion pure. Ils vivaient la religion pure que le prophète عليه الصلاة والسلام a enseigné, ainsi qu'à l'époque des khulafa, des quatre califes bien guidés.
ولكن الأمة بعد ذلك تفرقت تفرقا عظيما متبينا حتى كانوا على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
Une chose très très importante qu'il faut retenir, c'est que après donc l'époque des Khulafa al-Rashidin, après l'époque des Khulafa al-Rashidin, il faut savoir, barakallahu fik, que les gens ont commencé à diverger et à sortir des enseignements du prophète alayhi salatu wa salam, des enseignements de Salafuna Salih radiyallahu ta'ala anhum, et le prophète alayhi salatu wa salam l'a mentionné de son vivant. Et ça, c'est la preuve de la prophétie nubuwa. Il a dit que ma communauté va se diviser en 73. Donc nous aujourd'hui, quand on dit aujourd'hui que la communauté s'est divisée, c'est comme une fois, il y a un frère, il a fait une réflexion en disant: mais attends, pourquoi tu dis que la communauté va se diviser en 73? T'es qui toi pour dire ça? Ya akhi, on t'a pas dit que c'était moi qui l'avais dit, c'était Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui a dit hada al-kalam. Ce n'est pas moi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Comment aujourd'hui? Ah non, moi j'accepte pas ce hadith là. A'udhu billah. Tu n'acceptes pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Le prophète, il l'a dit. Donc c'est que réellement, il y en a 72 qui vont rentrer en enfer. La deuxième question à se poser: هل هم داخلوها إلى الأبد أم لا? Est-ce que les gens qui rentreront parmi la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rentreront en enfer éternellement ou pas? Ça c'est encore un autre débat. Ça c'est encore un autre débat. On ne sait pas s'ils vont rentrer éternellement, comme on ne sait pas s'ils ne vont pas rentrer éternellement. Il y en aura qui seront là-bas éternellement, il y en a qui ne seront pas éternellement. Je vais te donner un exemple. Tu as mécru en un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant que cet attribut n'existe pas. C'est pas tu l'as interprété, ou tu as une ambiguïté, ou tu ne savais pas, tu l'as fait par ignorance. C'est que tu as dit: non, cet attribut il n'existe pas, moi je le renie. Et là, regarde, Allah subhanahu wa ta'ala ala al-arsh istawa. Là, je rejette ce verset. Ah, tu as rejeté un verset. Man kafara bi harfin min kitabillahi fa huwa kafir. Celui qui rejette une lettre du Coran, c'est de la mécréance. Attention, il faut faire attention. Et donc, on a dit que cette firqa qui est mentionnée, illa wahida, le prophète, alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que hiya al-jama'a. C'est quoi? C'est al-jama'a. Il a intitulé al-jama'a, inshallah.
وهذا الوصف لا يحتاج إلى شرح في بيان أنهم هم الذين على الحق لأنهم أهل السنة المتمسكون بها وأهل الجماعة المجتمعون عليها.
Il n'y a aucun doute donc après tout ce qu'on a évoqué depuis le début de savoir que ces gens qui sont de أهل السنة والجماعة هم على حق. Pourquoi? Parce qu'ils se cramponnent à la sunna et en plus de ça مجتمعون عليها, ils se regroupent pour s'encourager mutuellement.
وَلَا تَكَادُ تَرَى طَائِفَةً سِوَاهُمْ إِلَّا وَهُمْ بَعِيدُونَ عَنِ السُّنَّةِ. بقدر ما ابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى ولا تجد فرقة غيرهم إلا وجدتهم فرقة متفرقين فيما بينهم. Et quand tu regardes les gens qui sont en dehors de la sunna, quand tu regardes les gens qui sont en dehors de la sunna, c'est qu'ils ont mis en application des innovations. Ils ont mis des applications, des innovations en application dans leur religion. C'est pour ça qu'ils se sont éloignés de la sunna. Et tu verras que même eux, entre eux, ils ne sont même pas d'accord. Pas comme Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Va voir les gens qui suivent la sunna, en Égypte. Va voir les gens qui suivent la sunna, par exemple, au Maroc. Va voir les gens qui suivent la sunna en Italie. Va voir les gens qui suivent la sunna en Inde. Va voir les gens qui suivent la sunna dans tous ces pays-là. Tu verras qu'ils sont tous à la kalamine wahid. Ils sont tous d'accord, ils sont tous unanimes. Leur parole, c'est la même chose. Il n'y a pas de divergence. Mais maintenant, rentre dans un endroit où, par exemple, les gens ne suivent pas la sunna, ils suivent des idées bien déterminées. Entre eux, il y a takalaboun. Entre eux, c'est la jizanie. Ils ne sont même pas d'accord. Alors un jour, lui va dire c'est vert, l'autre, le lendemain, va dire non, c'est bleu. Et entre eux, ils vont se taper dessus. Subhanallah. وقد قال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اي الله سبحانه وتعالى donc a dit à son prophète بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون سوره الانعام verset 159. Donc le sens rapproché et relatif de ce verset est que Allah subhanahu wa ta'ala donc a dit à son prophète, certes, ceux qui émiettent leur religion. Émietter, ça veut dire à la base, prendre un petit peu là, à droite, à gauche, etc. Et se divisent en sectes. Et se divisent quoi ? En sectes. De cela, tu n'es pas responsable en rien. Tu n'es pas responsable de ces gens-là. Toi, tu fais ton travail, et après, eux, s'ils veulent te suivre, ils te suivent. S'ils ne veulent pas te suivre, tu dois, toi, enseigner, tu dois donner ce que tu as. Celui qui veut te suivre, ahlan wa salam. Celui qui veut pas, il ne veut pas te suivre, il ne te suit pas, il est libre. Leur sort ne dépend que de Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va s'en occuper. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va s'en occuper. Puis, il les informera de ce qu'ils faisaient. Donc, ce n'est pas nous les juges. Nous, on ne juge pas les gens. On juge les gens, bien sûr, par rapport à quoi ? Par rapport à l'extérieur. Mais tout ce qui touche l'intérieur, on ne juge pas l'intérieur des gens. Et des fois, on est obligé de juger. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, par exemple, quelqu'un veut marier sa fille. Toi, tu vas voir un frère, tu dis, écoute, un tel, il est venu demander ma fille. Je lui donne ma fille ou je lui donne pas ? Qu'est-ce que tu connais de ce frère-là ? Là, est-ce que tu n'es pas en train de faire un jugement ? Tu es en train de faire un jugement. Mais de faire un jugement du genre c'est toi qui hakem Adam in al-Nar ou Adam in al-Jannah, lui fait partie des gens du paradis, les autres de l'enfer, là, et ni le hukmo illa lillah. Attention, faut pas tomber dans ce piège là. Ceci dit, donc ça c'était le premier cours de c'était en général de ce qu'on va parler dans les dimanches qui vont venir inshallah, en commençant bien sûr par Tawhid. Là on a fait une petite avance. Non, c'est ça que tu voulais dire. Une petite avance sur les cours qui vont venir. Bien sûr, il y a aussi une chose qui est à savoir. C'est que là, je vois beaucoup de frères qui croisent les mains. Maintenant, je ne sais pas si ce que j'ai dit n'est pas important. Allah, même s'ils l'ont retenu, alhamdulillah. Si vous êtes tous des Sofiane al-Thawri, masha'Allah, rahimahullah. Pourquoi ? Parce que Sofiane al-Thawri, dès qu'il entendait quelque chose, il l'enregistrait directement. Dès qu'il entendait une chose, il l'enregistrait dans sa tête. Alors c'est pour ça qu'il n'allait jamais faire les courses au marché, lui. Parce que quand il va au marché, tout ce qu'il entend, il enregistre. Mais nous, est-ce qu'on est des Sofiane al-Thawri, Allah alam ? Ou bien peut-être, si on n'est pas des Sofiane al-Thawri, il se peut que ce qu'on a dit, alhamdulillah, vous le savez. Si vous le savez, donc c'est un rappel, et le rappel fait profiter les croyants. Si vous ne le savez pas, vous allez me dire, oui, mais attends, il y a la cassette qui tourne, on va récupérer la cassette. J'avais oublié ce petit point-là. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici pour le premier cours.